La parole du jour avec Claude Frisch, diacre. Chers amis, bonjour. Donc, nous continuons avec les pères de l'Église, donc les débuts de l'Église en fait. Nous avons vu Ignace d'Antioche et Justin, qui sont plutôt les pères apostoliques. Donc, je le répète, ce sont les pères qui viennent directement après les apôtres. Et là, nous passons à une autre étape. En fait, nous allons parler des pères apologétiques. C'est le temps de la mission et de l'expansion du christianisme. C'est tout à la fin du IIe siècle. On a dit la dernière fois que Justin avait écrit une apologie, donc c'est juste à la fin de Justin. Et donc une apologie, du grec apologia, défense, au sens judiciaire c'est une plaidoirie pour défendre, c'est un texte qui prend la défense d'une cause, en l'occurrence la foi chrétienne. C'est donc vers la fin du IIe siècle qu'on voit apparaître plusieurs de ces apologies de manière particulièrement rapprochée. Alors pourquoi? Que disent ces apologies? En quoi nous intéresse-t-elle en théologie? Alors d'abord le contexte. La deuxième partie du IIe siècle, c'est jusqu'à Constantin, le christianisme est une religion interdite, donc persécutable. Cette deuxième moitié du IIe siècle est une époque qui nous a conservé plusieurs récits de martyrs. Les plus anciens que nous ayons, celui de Polycarpe à Smyrne, de Justin à Rome, celui des chrétiens de Lyon en 177, fut une époque de persécution non pas générale, mais locale, relativement fréquente. Il est donc naturel que l'une des urgences pour les communautés de ce temps ait été de faire cesser les persécutions où tant de frères laissaient leur vie. Ceux qui avaient les moyens d'écrire ont rédigé ainsi des plaidoyers, parfois adressés directement à l'empereur, afin d'obtenir la fin des exécutions de chrétiens, en demandant que le nom de chrétien ne soit plus considéré comme un crime en soi. Elle fait l'objet donc d'une confrontation culturelle et religieuse très forte. Donc le christianisme, en se répandant, commençait à atteindre des couches sociales plus élevées. Des gens donc frottés de lettres et de philosophie, à qui il fallait présenter le christianisme dans des termes et des arguments culturellement satisfaisants, sous peine de le discréditer définitivement à leurs yeux. Au-delà donc de leur première fonction, répondre à une urgence judiciaire, les apologistes chrétiens entreprennent d'opérer cette transposition, si l'on peut dire, de l'Évangile en termes plus philosophiques et de présenter la foi d'une manière plus rationnelle. C'est une forme d'inculturation. Avec les écrivains de cette époque qu'on appelle les pères apologistes, le christianisme s'adresse clairement à l'extérieur de ses frontières, alors que les œuvres de l'époque précédente étaient surtout à usage interne, en direction principalement des Juifs, et aussi à usage interne pour constituer l'Église, avec les questions disciplinaires, les exhortations et les lettres. Le christianisme revendique haut et fort sa place et sa légitimité au sein du monde antique. Toutes ces apologies pourraient être intitulées « Défense et illustration de la foi chrétienne ». Alors si le genre littéraire et l'objet principal de ces œuvres sont à peu près les mêmes, il y a quand même une assez grande variété dans la personnalité des auteurs. Alors certains auteurs, comme Justin et Athénagore, revendiquent fièrement le titre de philosophe, tandis que d'autres, par réaction sans doute, contre le mépris dans lequel les élites païennes cultivées tenaient le christianisme, affichent eux-mêmes beaucoup de méfiance ou de haine de la philosophie et prétendent se contenter de l'écriture. C'est le cas de Tertullien et avant lui de Tatien, qui fut pourtant le disciple de Justin à Rome. Un seul auteur, Théophile, est évêque. Alors les destinataires de ces apologies. Ces œuvres de défense étaient logiquement adressées à ceux qui avaient le pouvoir de faire cesser les persécutions. Les premières s'adressent aux empereurs du moment, Tatien s'adresse aux Grecs en général, tandis que Théophile a choisi Autolycos, un individu peut-être fictif qui représente les mêmes Grecs. Tertullien, lui, s'adresse globalement aux magistrats chargés des procès, qui sont aussi les gouverneurs des provinces. Le ton utilisé, par exemple chez Justin, alterne les charges antipaïennes et la défense de la conduite et de la doctrine des chrétiens, qu'il expose sur un ton très digne. Sans concession, mais sans obséquiosité, sans provocation non plus. Tatien, lui, s'adresse aux Grecs et non aux empereurs, adopte un ton beaucoup plus polémique. D'autres se placent d'emblée sur le terrain et le ton de la discussion philosophique, comme Athénagore et Théophile. Rien n'égale cependant la causticité de Tertullien, qui manie volontiers l'ironie et l'agressivité. Voilà ce qu'il déclare aux magistrats au début de l'apologétique. Voici donc le premier grief que nous formulons contre vous. Inique est votre haine du nom de chrétien. Cette iniquité, la même circonstance, qui semble atténuante, l'aggrave et la confond à la fois. L'ignorance. Pour les débuts d'un plaidoyer, il y a plus diplomatique. La fin est une bravade. Allez, bon gouverneur, dont la popularité se mesure au nombre de chrétiens immolés. Crucifiés, torturés, condamnés, broyez-nous. Votre iniquité prouve notre innocence. Le sang des chrétiens est une semence. Justin, parlant du temps où il était encore païen et disciple de Platon, le disait quand même avec plus de retenue, mais non moins de conviction. J'entendais accuser les chrétiens, mais je les voyais sans peur devant la mort et tout ce qu'on redoute. Et je me disais, il est impossible qu'ils vivent dans le vice et l'amour des plaisirs. Sur le fond, tous ces auteurs, même les plus modérés, sont d'une extrême sévérité envers les cultes païens. Cela rappelle que ces apologies ne sont pas qu'un plaidoyer, mais aussi une attaque contre le paganisme pour démontrer la vérité du christianisme. Alors les grands thèmes abordés, c'est d'abord en urgence la loyauté des chrétiens. Les chrétiens avaient attiré sur eux l'attention du pouvoir en refusant de participer au culte civique exigé de tout citoyen. Sacrifier en certaines circonstances aux dieux de l'Empire, accepter le culte de l'empereur. Ils étaient soupçonnés d'être traîtres à l'Empire, susceptibles d'attirer la colère des dieux auxquels l'hommage attendu n'était plus rendu. L'urgence était donc de protester de la loyauté des chrétiens envers l'Empire et l'empereur. Les chrétiens reconnaissent évidemment l'autorité de l'empereur et prient pour lui et pour le salut de l'Empire, mais d'une manière pas tout à fait inconditionnelle. Ils disent « Nous adorons Dieu seul, mais pour le reste, nous vous obéissons avec joie, vous reconnaissant pour empereur et chef des hommes et priant pour qu'avec la puissance impériale, on trouve en vous une sage raison. » Culte et mœurs des païens sont une deuxième urgence. Pour dénoncer les cultes païens dont ils assimilent les dieux aux idoles, les chrétiens restent fidèles à la tradition biblique, mais aussi à la critique philosophique des croyances qui existaient dans le paganisme lui-même. L'un des arguments est en effet repris, les dieux ne sont que d'anciens héros ou rois que leurs fées ont transformés en dieux dans la mémoire postérieure. Les auteurs chrétiens se donnent libre cours dans la critique de la mythologie. Récits invraisemblables, immoraux, prétend aux dieux toutes les passions humaines. Oui, disent-ils, nous sommes athées de ces dieux-là. Mais surtout, les mœurs des païens sont jugées de la même manière. Tous dépravés, pédérastes, criminels, pédophiles, le regard ne brille pas par la bienveillance ni par la nuance, mais encore une fois, le contexte de combat l'explique. Pour autant, c'est aussi une question que nous avons à nous poser en ces temps troubles de l'Église. L'ancienneté de la religion chrétienne, la question était Moïse ou Platon. Pour les anciens, une pensée est d'autant plus vraie et honorable qu'elle se rapproche des temps primitifs où les humains étaient proches des dieux. On reprochait au christianisme d'être une religion nouvelle. En annexant la révélation juive, celui-ci pouvait être argué d'une ancienneté bien supérieure à celle des philosophies grecques. D'où l'argument fréquent, Moïse est plus ancien que Platon. Alors d'où vient la vérité ? Pour les apologistes, si le Christ est le Verbe, le Logos de Dieu, c'est-à-dire la raison, toute raison humaine en dérive. C'est ce qu'affirme Justin. Chaque philosophe a bien parlé sur son sujet, empruntant aux semences du Logos divin ce qu'il pouvait en assimiler. C'est pourquoi ce qui a été bien dit par tous nous appartient à nous chrétiens. Car nous aimons et adorons, après Dieu, le Logos issu du Dieu inengendré et ineffable, parce qu'il est devenu homme à cause de nous. Seul le Verbe en personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, peut lui donner accès à la vérité tout entière, à condition de croire en lui. Le Verbe de Dieu, on voit que la notion de logos, verbe ou raison, occupe une place importante dans ce corpus. Elle est la passerelle par laquelle les apologistes espèrent atteindre ce public païen qui s'esclaffe quand on lui parle de résurrection. Ainsi s'élabore une présentation de la foi axée sur le logos. Dieu a tout créé par sa parole. Il se révèle aux humains par la parole qui s'adresse à leur raison. Mais les apologistes, la plupart du temps, s'abstiennent de parler de l'incarnation du Logos, de peur de heurter de front leur public, de même qu'ils évitent de parler d'un fils de Dieu.